Il conjugue deux dimensions du people, le people qui a trait à la royauté, qui est un people un peu spécifique, qui fonctionne selon des codes propres, et puis le people en général. Et il se trouve que la promise, Madame Markle, venait au fond de la célébrité classique. Elle est toujours actrice, et donc vivait plutôt dans le monde du people général, ordinaire, dans lequel, ben, à la fois on montre des morceaux concédés de la vie privée, et puis d'autres morceaux qui n'ont pas été concédés ou qui n'ont pas été prévus pour être transmis au grand public. Et ce courant-là rencontre l'autre, c'est-à-dire un people beaucoup plus policé, beaucoup plus régulé, dans lequel on ne montre pas n'importe quoi. Et lorsqu'on le fait, ça provoque un certain nombre de problèmes. On avait vu ça avec la photo topless de la duchesse de Cambridge il y a quelques années, qui était tout à fait en dehors de ce qu'on faisait habituellement dans ce type de couverture people royal, entre guillemets. Et donc là, ce qu'on observe dans les médias, dans le phénomène médiatique, c'est que les deux courants se rejoignent, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Harry qui relève du people royal et de l'autre côté Meghan qui, elle, relève du people classique, du people hollywoodien, hein, de ce people qui d'emblée avait été conçu comme un people à la fois concédé et transgressif.
Et pendant la cérémonie même, est-ce que vous pensez qu'on verra un clash entre ben, la famille de Madame Markle et la famille royale?
On a déjà vu dans les annonces du mariage toute une série de clashs entre des traditions de part et d'autre, hein, des traditions qui veulent que le père de la mariée la conduise à l'autel, des traditions qui veulent qu'on porte des robes en dessus ou en dessous du genou, qu'on porte des chapeaux et ainsi de suite. Donc toute une série de passages obligés qui ne sont évidemment pas partagés par tous. D'autant plus qu'on est, comme je vous l'ai dit, dans des registres people différents. Et donc, on a déjà vu s'annoncer ces formes-là de contradictions ou de besoin de faire le lien entre deux traditions. Mais ça, je crois que c'est le cas de tous les mariages. Simplement, dans celui-là, c'est un petit peu plus visible et un petit peu plus net, puisque le système dans lequel s'insère l'outsider, c'est-à-dire Meghan et une partie de sa famille, est un système extrêmement codé, extrêmement lourd et surtout visible en tout et pour tout, en tout cas dans cette partie-là de son expression. C'est-à-dire que autant il y a des choses des royales qu'on ne voit jamais ou qui sont cachées, autant il y a des événements, notamment les mariages, où on voit tout, où tout est codé, où en tout cas on doit voir une série de choses et on ne peut pas déroger à ce type de tradition et de rituel qui remonte bien au-delà de l'invention du star system, qui remonte à la mise en scène de la royauté, à son exhibition et au rituel qu'elle donne toujours à voir.
Une question très people. Pendant le mariage
Oui.
de Kate et William, il y a Pippa Middleton qui a un peu volé la vedette à la mariée grâce à sa robe. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs qui pourraient voler la vedette à Harry et Meghan?
Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. À l'évidence, la royauté y a réfléchi puisqu'elle a décrété, sauf erreur, que le dernier né de Kate et William, qui s'appelle Louis, sauf erreur, ne serait pas de la partie parce qu'il risquait justement de voler la vedette aux mariés. Au-delà de ça, ce que vous évoquez dans le mariage précédent n'était pas du tout prévu, était plutôt un concours de circonstances qui n'était vraisemblablement pas planifié, ni voulu, ni même difficilement prévisible, disons. Difficile de le dire. En principe, ce genre de rituel est extrêmement codé, extrêmement préparé et prévient les surprises, parce que les surprises ne font pas partie de ce qui est admissible dans des rituels d'un événement de cette ampleur.